on a trouvé qu'une société qui s'est implantée en RDC en 2018, qui a été établie par deux Nord-Coréens, a réussi à ouvrir un compte en dollars à la banque Afriland First Bank, plus précisément à la succursale à Lubumbashi. Et puis, ils ont érigé deux statues dans la province de Lomami, dans la capitale Kamina. En fait, ces deux projets de statues ont été financés totalement par le gouvernement provincial qui, à l'époque, avait comme gouverneur M. Jackson Kalenga Mwenzeni. Et en fait, le simple fait que la société qui a été établie par les Coréens du Nord a réussi à obtenir l'accès à un compte en dollars constitue une violation de plusieurs régimes de sanctions, y compris onusiennes, américaines et européennes. Et puis, le fait que le gouvernement provincial de Lomami a financé ses projets avec les fonds d'État constitue aussi une violation des sanctions onusiennes, en fait. Et donc, ça soulève beaucoup de questions qui sont bien troublantes par rapport à l'application des sanctions qui visent la Corée du Nord en RDC, soit par les autorités gouvernementales, soit par les banques, les autres institutions privées.
Il s'agit là bien d'une entreprise privée avec deux ressortissants de la Corée du Nord. Vous voulez dire que la Corée du Nord est en soi impliquée dans les transactions?
Oui, tout à fait. En fait, on a parlé avec plusieurs experts sur la Corée du Nord. Ce qu'on a trouvé, c'est que l'idée d'un homme d'affaires privé n'existe pas vraiment en Corée du Nord. C'est un état où même d'obtenir un passeport est très très difficile. Et ça implique au moins qu'on a un lien opérationnel avec le gouvernement nord-coréen. Et donc si un soi-disant homme d'affaires nord-coréen voyage à l'extérieur pour générer des revenus, ça implique que au moins une partie de ces fonds vont être envoyés jusqu'à Pyongyang. On a vu aussi que ces deux hommes d'affaires ont détenu des passeports officiels. Et donc ça implique, selon les rapports de l'ONU sur la Corée du Nord, qu'ils avaient un lien avec le gouvernement, peut-être par une société étatique. Le plus grand problème avec ça, c'est que si les hommes d'affaires, les soi-disant hommes d'affaires nord-coréens, ont pu générer les revenus, ils ont établi un compte bancaire, ça les aurait permis, comme j'ai dit, d'envoyer les fonds jusqu'à Pyongyang, où Pyongyang aurait pu financer ses projets prioritaires. Et c'est ça qui est extrêmement troublant, parce que les programmes d'armes de destruction massive sont une de ses priorités.
Vous avez cité une banque congolaise, Afriland First Bank. En quoi cette banque ou encore les autorités congolaises ont commis une faute si deux personnes privées de nationalité nord-coréenne se présentent pour ouvrir un compte et faire des affaires au Congo?
Pour nous, c'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé entre les agents de l'Afriland First Bank à la ville de Lubumbashi et les hommes d'affaires nord-coréennes qui ont établi la société Congo-Akande. Mais ce qui c'est clair, c'est qu'il y a une faute gravissime de devoir de vigilance. Parce que selon les règlements de la Banque centrale du Congo et aussi les pratiques de l'Afriland, les deux Nord-Coréens auraient présenté plusieurs documents montrant le fait qu'ils sont nés, ils étaient des ressortissants de la Corée du Nord. Ils incluent les statuts qui sont dans... On a inclus un extrait de ces statuts dans notre rapport. C'est très clairement écrit sur ces statuts que les deux personnes sont nées à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Et puis, ils auraient aussi fourni des copies certifiées de leurs passeports. On a aussi inclus des extraits de ces passeports dans notre rapport d'enquête. Et c'est facile à voir qu'il s'agissait des personnes de nationalité coréenne, de la Corée du Nord. Et pour les banques, la Corée du Nord, bien sûr, ça pose un risque énorme par rapport aux sanctions. Parce que les Coréens du Nord, à l'extérieur, cherchent souvent, assez souvent, de contourner les sanctions internationales. Et donc, au moins, les agents de l'Afriland First Bank auraient dû se poser la question. Est-ce qu'il s'agit d'une activité par cette société qui va à l'encontre des sanctions? Et est-ce que ça constitue une pratique, une activité qui est à éviter pour notre banque.
Cela n'est-il pas normal dans la mesure où même le président américain Donald Trump a essayé de normaliser les relations avec la Corée du Nord l'année dernière?
Cela, je l'ignore en fait. Il s'est rendu
à Pyongyang, il a traversé plusieurs fois.
Moi, en fait, je ne vois aucun lien entre ces activités, c'est-à-dire le rapprochement potentiel entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais pour moi, les sanctions ont été mises en place en 2017 et sont en place jusqu'à présent. Et donc, même si Donald Trump avait rencontré Kim Jong-un à Pyongyang, peu importe dans le contexte de ce rapport, parce que les sanctions, comme j'ai dit, ont été toujours en place.
Vous avez dit parler de plusieurs manquements répétés dans...
Au début, les Nord-Coréens ont demandé auprès de l'ambassade de la RDC à Yaoundé, Cameroun, les visas simples qui ont expressément dit que le détenteur de ces visas ne pourrait pas engager dans les affaires commerciales. Ce qui soulève beaucoup de soucis par rapport à l'application des sanctions RDC, c'est que le dossier de la création d'entreprise aurait été exposé à trois ministères, le ministère des Finances, le ministère de Justice et puis le ministère de l'Économie nationale. Plus de peut-être 10 bureaux de services. Mais pendant ce processus, il n'y avait pas des réactions apparentes. C'est-à-dire, est-ce qu'un agent du ministère des Finances qui aurait dû donner un numéro d'impôt à Congo Atondé, la société, aurait posé la question, est-ce que nous devrons donner un tel accès à notre système de commerce à une société qui a été établie par deux Nord-Coréens? Parce que cela pose des risques pour l'application des sanctions. Et puis, ça probablement constitue une violation des sanctions. Puis, en parlant des autorités gouvernementales en RDC, plus précisément le gouvernement provincial de l'Omami, ils ont, comme j'ai dit, financé des projets de statut avec les fonds propres du gouvernement. Et ça constitue aussi une violation des sanctions onusiennes, parce que les États membres sont interdits d'utiliser les fonds publics pour financer les projets qui sont réalisés par les Coréens du Nord. C'est clairement dit dans les programmes de sanctions. Donc, une autre violation de sanctions se trouve pendant à Kinshasa, probablement, quand il semble que l'actuel gouverneur, Jean-Pierre Ngobila, aurait engagé la société Akonde, Congo Akonde, pour aménager un espace public au long de l'avenue Lumumba, à Limete.